Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Et c'est le moment du mois où on est plusieurs autour de la table, puisque c'est jour de club de lecture. Alors, je rappelle un peu le contexte avant de présenter mes collègues. Alors, le club de lecture, ça fait déjà quelques années qu'on en offre ici à La vie en BD. Donc, l'idée est simple. Un des participants choisit un thème, choisit une proposition de thématique. Et ensuite, chaque participant au club de lecture, il va d'une sélection, d'une proposition d'album en lien avec la thématique choisie. Ensuite, on lit les albums et on en parle au fil d'une heure d'émission. Et par le « on », j'entends Marco Duchesne. Bonjour.
Bonsoir.
Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Jérôme Vermette, bonjour.
Bonsoir.
Alors donc, c'est les trois associés du club de lecture. Et pour ce mois-ci, le thème, ça revenait à moi. Donc, c'était à mon tour de le choisir. Et je ne sais pas comment vous choisissez les vôtres de votre côté. Moi, je me suis inspiré d'une lecture qui m'avait marqué. Donc, dans le moment où on s'est dit qu'on choisissait justement les thématiques, je venais de finir It's a Good Life If You Don't Awaken de Seth chez Drawn and Quarterly. Je fais un peu de rattrapage du côté de la bande dessinée canadienne anglaise ces derniers temps, entre autres avec Seth, qui est un auteur absolument extraordinaire pour moi. Et avec It's a Good Fly If You Don't Awaken, je trouvais que c'était une riche réflexion, une riche mise en abîme sur l'éphémérité de l'art, de la pratique artistique, sur qu'est-ce qu'on va laisser une fois qu'on sera passé, une fois qu'on sera en partie tombé dans l'oubli d'une certaine façon. Et cette bande dessinée-là, dans le fond, nous amène dans le parcours de Seth qui, à l'image un peu de toutes les bandes dessinées de ce groupe d'auteurs canadiens, anglais, dans le fond, se mettent en scène aussi mutuellement. Donc, on croise d'autres auteurs. On anime une réflexion justement sur la pratique, mais tout ça à travers une quête. Donc, c'est Seth qui essaie de retrouver un obscur dessinateur qu'il avait découvert à la lecture d'un magazine. Et à la lecture de ce magazine-là, il avait été happé justement par des éléments de composition, donc un dessin, et il a choisi d'essayer de continuer à retrouver, dans le fond, des propositions qui avaient été réalisées par cet auteur-là, éventuellement de se mettre sur les traces de l'auteur lui-même pour savoir qui il était. Et à travers tout ça, les réflexions justement que j'ai exposées tout à l'heure. Donc, je trouvais que c'était une belle mise en abîme, si on peut dire, de la pratique et de réflexion que, comme créateur, on peut penser que des auteurs, des autrices peuvent avoir, dans le fond, pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui va rester, où ça va m'amener. Et au bout du compte, ça m'a amené à me dire, justement, il y a beaucoup de BD qui s'intéressent à la bande dessinée, qui mettent en scène l'art de la bande dessinée sous diverses formes, dans diverses perspectives. Et c'est un peu ce livre-là qui m'a amené à vous proposer, les gars, mathématiques, donc des BD qui parlent de BD. Alors, donc, on va jouer un peu avec cette mise en abîme-là, avec ce quatrième mur-là, et je le dis tout de suite pour que ça soit clair, dans des styles, dans des approches bien différentes. Et d'ailleurs, en fait, dans des styles, dans des approches, dans des époques, dans des contextes aussi qui sont quand même assez différents, puisque outre « It's a good life if you don't awaken » de Seth chez Drawn and Quarterly, les trois autres titres qui sont à l'honneur cette semaine, c'est « Itinéraire d'un rêveur » de Will Eisner chez Delcourt, décidément un auteur abonné d'ailleurs de nos clubs de lecture. Il y a également « Faire de la bande dessinée » de Scott McCloud, également chez Delcourt, et le premier tome de thérapie de groupe de Manu Larsonnet du côté de Dargaud. Alors, j'ai déjà un peu présenté ma bande dessinée et présenté le thème, un deux pour un. Alors, je laisserai peut-être aux autres le soin de présenter leur proposition. Peut-être je lance les titres et vous vous attrapez la balle au bon. Alors, allons-y avec « Itinéraire d'un rêveur » de Will Eisner.
Alors, c'est mon choix parce que pour moi, Will Eisner est un des grands génies de la bande dessinée avec Hergé et peut-être McKay ou Herriman. Et Will Eisner a beaucoup réfléchi sur la bande dessinée début du 20e siècle déjà. Il a commencé à faire du comics en faisant le Spirit, un personnage qu'il a créé pour les comics. Et ce Spirit, il a travaillé là-dessus pendant des décennies. Et il a travaillé là-dessus, pas seulement qu'à raconter des histoires, mais tel Hergé. Il a travaillé sur la façon de raconter les histoires du Spirit. Et il a exploité et vraiment travaillé sur la forme de la bande dessinée, les codes de la bande dessinée. Il y a réfléchi. Alors, quand il a arrêté le Spirit dans les années 70, début 80, il a commencé à réfléchir sur les codes et lui aussi a écrit, comme Scott McCloud, il a écrit des ouvrages sur l'art de raconter en bande dessinée. D'ailleurs, on lui doit ce joli nom de la BD qui s'appelle Art séquentiel, d'où l'importance pour lui de cette succession d'images qui racontent quelque chose. Donc, il a vraiment réfléchi, il a écrit des ouvrages sur la BD, mais c'est pas tellement... j'aurais pu choisir un de ces trucs-là, un de ces ouvrages-là de lui, mais j'ai choisi L'itinéraire d'un rêveur parce que quand il a arrêté le Spirit, quand il a commencé à raconter des histoires en bande dessinée, il a choisi de raconter des choses que lui a vécues, de ses racines de juives, de ses racines new-yorkaises. Il a raconté New York d'une façon magistrale à son époque. Mais aussi, vers la fin, il a commencé à se raconter. Et fictif, mais quand même, c'était de la biographie un peu fictive, mais de se raconter comme lui en tant que dessinateur de BD. Comment il en est arrivé à dessiner? Et l'itinéraire d'un rêveur, c'est ça. Ce type qui arrive à l'âge adulte à New York, et là, il veut faire de la BD. Son rêve est d'en faire. Et on le voit intégré à une époque, faire des comics dans des petits éditeurs ou qui faisaient du comic strip, la création du premier syndicat des dessinateurs. Ensuite, toutes ces maisons d'édition qui naissent, qui disparaissent au gré des genres et des voix. Alors, lui nous raconte un peu comment cette époque-là, c'était dessiner de la BD et faire de la BD avec tous les autres dessinateurs de cette époque-là qui l'ont côtoyé et qu'on reconnaît quand on connaît un peu le milieu, mais avec les notes de page, on nous indique les vrais noms de tout ça. Donc, moi, j'ai choisi ça pour cette époque-là que j'aime beaucoup.
Et tu as mentionné, en fait, Scott McCloud dans les éléments que tu aurais pu prendre. Évidemment, ça a été pris, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est Édouard qui a pris faire de la bande dessinée.
Tout à fait, en fait, parce que, bon, visiblement, je suis le seul qui a compris le thème, hein, qui était de la BD qui parle de BD, non pas de dessinateur de BD. Alors, hein, comme d'habitude, moi, je suis allé pile-poil là-dessus. Mais donc, non, blague à part, évidemment, Scott McCloud, qui a fait, lui, justement, hein, on en parlait, une espèce de triptyque, je pense qu'il est rendu assez ça, trois ouvrages, justement, sur l'art de qu'est-ce qu'est une BD, de comment la comprendre, de comment la faire également. Et justement, dans celui que j'ai choisi, eh bien là, on est vraiment sur des aspects qui vont être très, très techniques, sur vraiment comment quel choix, en fait, on rencontre lorsqu'on est un dessinateur, lorsqu'on est un créateur de bande dessinée. Qu'est-ce qui va devoir être important de garder à l'esprit pour avoir une bande dessinée qui fonctionne? Et tout ça présenté, encore une fois, sous un mode de bande dessinée. Donc, ce qui est doublement, parce qu'évidemment, je ne serais pas allé si ça avait été juste un texte, hein, continu, comme ça. Bon, on aurait été un petit peu en dehors du propos, évidemment. Mais donc, tout ça présenté, justement, en bande dessinée avec McCloud, qui lui-même s'illustre, se met en scène et nous présente la chose. Et j'aurai l'occasion d'y revenir quand on en parlera plus avant. Mais pour moi, ce genre d'ouvrage-là et c'est très, très personnel, mais revêt une importance capitale dans mon cheminement, je dirais, comme lecteur de BD, mais aussi comme appréciateur de BD. C'est ce genre d'ouvrages-là qui m'ont ouvert des horizons que je ne soupçonnais pas. J'aurai l'occasion d'en revenir, mais voilà pourquoi moi, mon choix, c'est presque d'instinct porté sur Scott McCloud, en fait.
Et dernier titre qui va être en discussion aujourd'hui, Jérôme, Thérapie de groupe, le premier tome de Larsenet.
Oui, tu es un auteur un peu moins légendaire que les deux précédents.
Oui, quand même.
Surtout, puis c'était pas mon premier choix, je l'avoue, j'ai beaucoup hésité. Au départ, je m'étais dit, je vais y aller en mode constructiviste avec ton thème, puis j'allais proposer Watchmen d'Alan Moore puis Gibbons, mais ça aurait été complètement farfelu comme idée. Donc, Manu Larsenet, moi, c'est un des auteurs actuels que j'aime beaucoup, en fait, là, justement. Donc, ça a toujours été un peu je pense qu'on touche toujours un peu à ça, on prend des auteurs qu'on aime, puis Manu Arsenault me plaît beaucoup. Je trouve qu'il essaie toutes sortes de choses. Des fois, il peut être très drôle, comme dans Retour à la Terre, ou très dramatique, même très psychologique, comme avec... moi, je l'ai découvert avec... Blast, où là, il s'éclatait vraiment là, en tant que tel. Et avec Thérapie de groupe, ben, on reconnaît son côté, il se le cachait déjà pas dans Retour à la Terre, son côté quand même TPL, si j'ose dire, là, personnalité limite, non, mais je veux dire un peu dépressif, hein, tendance à la dépression en tant que telle. Et on dirait que dans cet album-là, il a décidé un peu, je ne sais pas si c'est d'en faire une catharsis, mais manifestement, prenant appui sur l'idée d'une crise personnelle qu'il vit intérieure, que ce soit la crise de la page blanche qui vire en dépression ou non, et on finit par le voir à l'œuvre. Il rit de sa condition de dessinateur qui vit un peu au crochet de sa femme. Hein, j'aime beaucoup la planche où il dit, au niveau mental, ma femme et moi, on est très bien séparés les choses. À elle, toute la charge, et à moi, toutes les maladies. Donc, la femme travaille toute la journée jusqu'à tard et lui, il dessine ou il essaie. Et il cherche, et c'est là le défi du dessinateur, du BDS, excuse-moi, il cherche... La perle rare, encore une fois. Donc, il a réussi à faire des œuvres importantes, Combat ordinaire, Blast, le rapport de Brodel et tout ça. Et là, il s'illustre lui-même en train de chercher son prochain sujet. Et à travers sa BD, que moi, j'ai trouvé très désopilante, mais je sais que sa proposition n'a pas fonctionné auprès de beaucoup de ses fans, on voit un peu l'histoire de l'art, ni plus ni moins, dans sa bande dessinée. Donc, de quelle manière ça l'influence, lui? Mais aussi, disons, un peu l'art séquentiel en général. Et tout ça, bien évidemment, avec son style. Manu Larsenet essaie plusieurs styles dans cette BD-là aussi, le visuel. Donc, on aura l'occasion d'en parler.
Alors donc, c'est les quatre titres qui sont en discussion. On a présenté les titres, on a présenté le thème. Et maintenant, c'est le moment de commencer à discuter. Et c'est le moment donc où tous nos regards admiratifs se tournent vers Édouard Tremblay.
Il va sans dire. Mais en fait, je vois ici justement hein, quatre regards, comme on disait, quatre cheminements, aussi bien que ce soit justement des cheminements très techniques que des cheminements plus intérieurs, mais chacun menant justement à son objectif, ou à ce qu'il tant, en fait, de toucher ou d'obtenir. Et je me disais justement, en même temps, il y a cette espèce de belle entonnoir, à savoir qu'on, justement, on est en quête par rapport à soi, on est en quête par rapport à un autre, on est en quête par rapport à une carrière et on est en quête par rapport à, je dirais, la BD en général. Et donc, dans cette foulée extraordinairement bien présentée, je me disais... Commençons justement par Thérapie de groupe, hein, dont Jérôme vient juste de nous parler, où là, on a un auteur qui pose un regard très introspectif et, oui, extrêmement amusant sur lui-même. Je trouve que c'est quand même un bel exercice d'abord d'humilité, hein, de se présenter comme ça avec bon tout le la peur de la page blanche, avec bon tout ce côté oui justement hypochondriaque, dépressif et tout,
gras
oui, quand même pas hyper charmant non plus, mais je veux dire, on s'entend que Manu Larsenet est quand même quelqu'un justement qui a une notoriété assez extraordinaire, et de garder, moi, quelqu'un qui est capable de garder cette espèce de d'humilité, ça veut dire oui, mais regardez, là, c'est pas. Tu sais, l'idée de génie, elle nous apparaît pas comme ça tous les jours, puis il y a bien de la remise en question, puis il y a bien du questionnement sur comment, justement, moi, je m'inscris dans l'art at large, comment je voudrais peut-être aussi, en tant que dessinateur, en tant que BDiste, avoir un impact sur mon médium et sur peut-être même l'art en général, comme certains l'ont eu. Mais on le sait très bien, hein, quand on regarde justement les grands noms de la BD, tout ça a l'air tellement fluide, a l'air tellement facile. On se dit, oh mon Dieu, lui, il s'installe devant sa feuille, mm-hmm. ça coule comme de l'eau, puis voilà, un nouveau chef-d'œuvre apporté au chapitre d'un tel. Mais, et c'est ce qu'on voit très, très bien dans la BD de Larsonnet, c'est pas ça du tout. Là. C'est aussi pénible que n'importe quel processus créatif, avec ses doutes, avec ses remises en question, avec ses gros passages à vide et livré, comme je disais, avec un humour comme ça. J'avoue que je suis peut-être pas un aussi gros lecteur de Larsonnet que vous l'êtes tous trois, mais j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de plaisir à l'explorer dans cette idée-là. Comme je dis, moi, ça m'a vraiment emballé là, comme titre.
C'est une chronique annoncée, en fait, de cet album-là. Le combat ordinaire, c'est tout à fait ça.
Ah oui.
Le combat ordinaire, c'est d'abord le personnage, Marco, c'est Manu Larsonnet, c'est un photographe qui est en train de... Il se pense un peu guéri de sa dépression, veut faire des choses, mais en ce moment, au moment où on prend l'aventure de ce photographe-là, qui pense sortir de sa dépression, il n'a pas de projet. Il roule la vide un peu et c'est là qu'il va embarquer sur, si je me rappelle bien, une espèce de photo-reportage de son père qui va renouer avec la relation père-fils. Bref. Mais c'est un peu une chronique annoncée. Et je pense que Larsonnet, tous ses projets font un peu, c'est un peu ça. Quand il a lâché Fluide glacial, quand il a abordé ces projets-là un peu personnels, là, c'est là qu'il a commencé à être un des BDistes les plus importants de notre époque à nous. Là. C'est-à-dire que chaque projet, moi, je le trouve, c'est un de ceux qui sont innovants en ce moment là, au niveau du traitement de la bande dessinée et des histoires qu'il raconte.
Il fait partie de ceux qui se renouvellent un peu à voilà. Chaque album important, il ne reproduit pas la formule d'avant, tant au niveau du dessin que du récit, et puis Thérapie de groupe est dans...
Quand tu arrives à Thérapie de groupe, là, effectivement, parler de lui, parler de ça avec humour, c'est bien, mais waouh, le traitement de ça!
Ouais.
Alors, je veux dire, on ne parle que de BD là-dedans. On ne parle que de BD, et on nous montre que de la BD. Dans son état où il réfléchit, on va du psychédélique qui ressemble à du Drouillet, à du manga, il y a de l'américain. Et à un moment donné, dans ces petites histoires-là, et cette espèce de gourou qu'il va visiter et qui l'engueule parce qu'il fait des... Bref.
Mais il y a quelque chose Il y a un truc que j'aime bien dans cette BD, en y repensant après l'avoir relu, puis en revoyant un peu tout ce qu'on avait eu à lire pour ce club-là. C'est justement, en dehors de sa mise en scène de soi qu'il fait, Larsonnet, je trouve qu'il inscrit justement la bande dessinée, le 9e art en tant que tel, à travers tous les autres arts qui ont eux aussi une histoire. Et là, ben, tu sais, il se met à réfléchir sur... Là, je ne me rappelle plus si c'est dans le tome 2 ou le tome 1, là, même jusqu'aux hommes des cavernes qui vont sur les grottes. Il ramène, il rencontre...
Ouais, c'est là le premier.
Les scènes préférées, il rencontre... voyons, un des impressionnistes, l'un des peintres.
Cézanne, je pense.
Hein?
Cézanne. Je pense que c'est Cézanne.
Oui, c'est ça, Cézanne. Puis moi, cette scène-là, je la trouve mais vraiment très drôle.
Oh, c'est extraordinaire.
Que, en même temps, ce qu'il montre, c'est que lui, en tant qu'artiste d'art visuel, il ne fait pas que lire du comic. Il l'a cherché, il a fait des recherches, il s'est intéressé à toutes sortes de formes autre que juste la bande dessinée, et c'est ce qu'il montre, mais en faisant de la bande dessinée, c'est un de ces aspects-là qui rend cet ouvrage-là intéressant pour le thème, je trouve, d'ailleurs.
En fait, c'est que la mise en abîme dépasse l'idée de la page blanche, dépasse l'idée de la crise créative comme telle, puis ouvre des portes vers d'autres éléments, vers d'autres propos, vers d'autres mises en abîme au-delà de l'histoire de la page blanche comme telle. Je trouve intéressant ce que tu amènes justement sur toute l'évolution du parcours de l'histoire de l'art. Et d'une certaine manière, on peut pas sortir la bande dessinée du contexte de l'évolution des pratiques visuelles. Elle s'inscrit dans un contexte. Elle est arrivée à une certaine époque, forte de tradition en art visuel, en art ci, en art ça, avec des auteurs qui, pour certains, étaient autodidactes, pour d'autres, ont été formés aux beaux-arts. Et c'est encore le cas aujourd'hui, même s'il y a des formations qui se sont spécialisées avec le temps. Donc, il y a là une richesse de réflexion. T'sais, c'est un album que tu peux prendre pour l'humour, pour le gag, pour les situations, pour le rythme qui en ressort. Ça va être intéressant. Autant que tu peux dire, ben, hey, j'ai envie d'aller voir un peu tel artiste, de voir tel truc, de voir tel autre. Et en même temps, dans un contexte où tu le mentionnais tantôt, tu disais, c'est pas tout le monde qui a adoré cet album-là quand il est arrivé. T'sais, on peut comprendre qu'après le rapport de Brodeck, qu'après Blast, qu'après le combat ordinaire, on arrive avec quelque chose qui est, je dirais pas décousu, mais très éclaté, qui est radicalement différent. Ben oui, ça va désarçonner certains lecteurs, mais en même temps, ben, je pense que c'est Édouard qui l'a souligné. Dans le fond, c'est tout à l'honneur de l'Arsenais d'avoir une volonté de se réinventer, d'avoir une volonté de faire évoluer sa pratique, quitte à justement réfléchir sa pratique devant le lecteur, mais en étant capable quand même de tisser un fil de réflexion, de tisser quelque chose autour de ça qui, d'un point de vue narratif, va quand même nous satisfaire aussi parce qu'on n'est pas que dans l'exposition de la réflexion non plus.
Oui, vas-y, Edouard, vas-y.
Oui, non, mais c'est ça, ça doit toujours être un débat, enfin, interne pour quelqu'un qui, justement, veut évoluer dans son art, que ce soit, justement, de la BD ou autre. Et je prends exemple, dans le domaine de la musique, le groupe Metallica, qui est très, très connu, et qui, pratiquement, à chaque album qui sortait, perdait des fans, ça créait un tollé. Ils vont dire « Ah, mais là, c'est pas la même affaire, puis ça sonne pas comme l'autre, puis pourquoi, puis ci, puis ça. » Jusqu'à ce que le groupe finisse par s'en aller puis dise « Écoutez, nous, on progresse dans une direction comme on veut, vous nous suivez ou vous nous suivez pas. Ah » Puis à partir de là, on vous livrera pas ce que vous autres avez envie, on va vous livrer ce que nous, on a envie de faire, puis votre appréciation va venir au bout. C'est sûr que c'est écoute, puis je peux, tu sais, de un, c'est peut-être pas tous les artistes non plus qui sont capables de, justement, hein, se revirer de bord comme ça, parce qu'on s'entend que c'est quand même, on dit ça de même à la légère, mais c'est toute une considération, justement, et toute une épreuve. Et que, justement, à partir de là, de dire, écoutez, moi, j'y vais, puis vous suivez si vous suivez, puis that's it.
Mais l'arsenal, Marcenet fait des planches dans son album sur... ben moi, je les ai lues comme ça, là, un peu en les revoyant avec le recul, sur le public, puis c'est sa famille. Chacun des membres de sa famille à qui il fait lire sa tentative de faire une BD représente un public cible différent. Ça montre à quel point... Mon Dieu, mais pour l'artiste, c'est quoi d'essayer de se vendre au bout du compte, tu sais? Il n'y en a pas un qui lui dit la même affaire et son fils lui dit « Tu devrais faire un manga avec l'action. » Et là, ça lui permet de montrer, lui, ce qu'il peut faire avec les codes du manga. Après ça, sa fille, je ne me rappelle plus ce qu'elle lui dit. Sa femme s'endort. En tout cas, bref, mais sa famille, c'est l'équivalent d'un public, hein, ni plus ni moins. Puis, il se ramasse avec ce dilemme-là que tu expliques, là, Edouard.
Et ces auteurs-là, à un moment donné, quand ils viennent avec cette espèce de succès-là, c'est-à-dire la reconnaissance du public et des critiques et tout, ça atteint une espèce de niveau... Et si un clash entre les deux, moi en fait l'Arsenais, quand est arrivé cet album-là, j'étais pas surpris, c'est-à-dire le doute puis et tout. C'est après, je pense que à un moment donné, après Blast, il avait commencé le rapport de Brodel et Manu l'Arsenais avait un site sur internet où il produisait ses dessins, ses essais, et il faisait, et il partageait avec. Et à un moment donné, il s'est aperçu que les fans les pognaient ses dessins puis les publiaient ailleurs et tout. Il est venu en maudit, il a tout fermé. Tu sais, c'était comme s'il avait cassé avec cette espèce de confiance et de naïveté qu'il avait pour son public et que ça l'avait touché de cette façon-là. Ce qui fait qu'il a tout fermé. Et après le rapport de Brodel, arrive cet album-là. Et moi, j'ai comme vu une espèce de... Alors, tous ces auteurs-là, à un moment donné, c'est inévitable, le public, la réception de ce qu'ils font. Souvent, ils sont... C'est une espèce de miroir, là. C'est, ouais. Ils sont... ça rebondit sur eux, puis...
Ça date pas de bien, Iconoclaste, hein, qu'on se rappelle le seul one-shot qu'il a fait, qu'il a eu sur Valérien. C'est lui qui a fait ça. Mon Dieu, ça, c'était iconoclaste à fond.
Ah non, oui, tout à fait, oui.
C'est intéressant de voir un peu, justement, ben on revient, mais tu sais, avec un désir et un plaisir d'expérimenter. Mais en même temps, si tu le suis dans son expérimentation, il y a quelque chose qui en ressort. C'est pas, ça ne carbure pas à vide. Ça ne carbure pas au remplissage. Puis encore là, juste avec l'idée de la prémisse de départ, je veux dire, c'est quand on me dit, regarde, c'est un auteur qui réfléchit à ce qu'il va faire dans son prochain projet, je veux dire, ça peut tourner à vide aussi longtemps, là. avec un artiste moindre qui aurait peut-être une réflexion un peu moins riche, avec un parcours un peu moins animé, justement, ou une volonté d'éclater un peu, d'explorer dans différents styles, ça aurait pu nous amener vers quelque chose d'assez quelconque aussi. Là.
Mais je pense que c'est quelque chose qui est, encore une fois, un peu un lien entre les quatre œuvres, dans la mesure où il y a cette richesse de réflexion derrière le métier, derrière le médium, derrière la trace et la pérennité qu'on a à faire ça. Et c'est ce qui nous amène, bien sûr, vers cette extraordinaire BD de Seth, comme ça, It's a Good Life, If You Don't Weaken. Je dois le confesser, moi, Seth, j'en avais jamais lu. C'est un style quand même assez, je dirais pas aride, mais assez droit, assez sec, un peu à la RG. Et donc, je vais te l'avouer bien candidement, Raymond, je t'avoue que je rentrais un petit peu de reculons dans celle-là. Puis là, au début, bon, ça discutaille un peu, je sais pas trop où ça s'en va. Et d'un coup, je découvre la personnalité de Seth avec laquelle je suis complètement tombé en amour parce que, mon Dieu, c'est pratiquement moi. Cette espèce de vieux cynique. Écoute, j'ai adoré.
Il est plus parlable que toi, là, mais.
Ouais, quand même, beaucoup plus sociable et humain. Mais somme toute, dans certains aspects, tu sais, je m'y retrouvais beaucoup. Et c'est justement quand on découvre aussi le propos derrière, justement, cette espèce d'intérêt extraordinaire qu'il va développer sur un gars qui a fait 4-5 dessins. C'est pratiquement une enquête presque policière pour essayer de découvrir, voyons, c'était qui ce gars-là, pourquoi il en a fait aussi peu, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc, toute la BD nous amène sur les traces de ce gars-là. Et avec, dans le fond, je pense que c'est une case en particulier vers la fin où il dit, regardez, tu sais, la vie de ce gars-là, toute sa vie, son œuvre, tout ce qu'il a fait, se résume comme ça à 4-5 dessins. Voilà la trace qui est laissée derrière. Moi, je veux qu'en partant, c'est un thème qui, moi, me touche beaucoup, beaucoup, que je retrouvais dans des auteurs comme Laurent Gaudet, des choses comme ça. Bon, la trace, l'héritage, le règne, la passation et tout. Et là, justement, on voit comment, tu sais, toute une vie d'effort, de travail, de dévotion peut parfois se résumer à tellement peu de choses. Là. C'est beau et c'est tragique en même temps. Là.
Marco.
Écoute, pour ce que Edouard avançait, effectivement, mais l'espèce de truc éphémère ou la trace, dans le cas de Callot, c'est pas tellement qu'il avait fait peu de choses, c'est qu'on ne retrouve pas beaucoup de choses. Et d'où l'enquête, d'où Seth et son truc. Parce qu'il a quand même travaillé au New Yorker et tout. Je sais, à la lecture, quand c'est sorti, j'avais fait, moi, une enquête sur Callot. Parce que ça m'intéresse. Non, mais tu dis qu'il aurait... Je pense que Seth nous interpelle et chacun de nous pense que c'est lui parce que Seth est un marginal et nous le sommes tous en BD, les gens qui aiment la BD.
Je peux me permettre, Marco, moi, quand je l'ai lu, c'est vraiment à toi que j'ai pensé. Quand tu voyais faire ces recherches, ça me rappelait ce que toi, tu nous parles de ce que tu fais comme recherche personnellement. C'est vraiment toi que j'ai vu.
En fait, oui, je remercie Raymond de l'avoir mis au programme. À la relecture, là, j'ai eu une émotion. Là.
Oui.
Quand je le voyais chercher ces trucs sur Callot et toute cette période du comics, puis des comic trips, puis des illustrateurs. Et là, je ne sais pas pourquoi qu'à la première lecture, je ne me suis pas retrouvé dedans. J'avais aimé ça. À cause de la ligne claire, Là, à la relecture, je me suis vraiment retrouvé. Là, vraiment, là, c'était... Bon, sa vie plate, oui, c'est la mienne aussi. Mais cette recherche-là de la trace et tout, qui est beaucoup moins importante pour moi, mais effectivement, pour les artistes, et là, on dépasse la BD, on dépasse cette espèce de volonté de vouloir installer quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui va finir par devenir des chefs-d'œuvre absolus, peut-être. Mais surtout, cette quête-là, cette façon de travailler-là, et cette vision que Seth a de son art, la BD, parce que, franchement, il n'a pas commis beaucoup de bandes dessinées. It's a Good Life est la première qu'il ait fait travailler. Les autres parutions qu'ils ont fait plus tard étaient des carnets qu'ils faisaient avec de petites cases. Et parfois, c'était souvent des premiers jets. il travaillait pas beaucoup sur de la bande dessinée comme projet, tout ça. Donc, c'était surtout les carnets qu'on publiait.
C'est assez audacieux, d'ailleurs, comme manière de parler de bande dessinée, cette bande dessinée-là, parce que ça m'a marqué, entre autres, en le lisant. Puis là, je pense un peu justement à la manière dont lui utilise la bande dessinée pour en parler. Il parle beaucoup de sa passion, hein, de ça, d'où viennent ses influences et tout ça. Et contrairement, mettons, à McLeod, qu'on va voir plus tard dans l'émission, et puis justement Thérapie de groupe, lui, le visuel des bandes dessinées qui l'ont influencé, il ne le met pas en scène. Il se garde tout le temps. C'est tout le temps lui qu'on voit tout ça, mais il en parle. Fait qu'on est comme en deux temps, des fois décalé. Il raconte un strip de Peanuts, mais c'est pas le strip. Le strip, tu le vois pas du tout. Tu vois rien qui ressemble à Charles ou quoi que ce soit. Tu vois, lui, son histoire continuer, sa quête personnelle. Il se parle, puis il se raconte son strip.
Je me demande même, dans certaines mesures, s'il essaye pas justement d'instiller une recherche de notre part aussi, tu sais, dans la même façon que lui l'a fait, essayer de perpétuer cet intérêt-là. Puis, on parlait de pérennité, je fais une mince parenthèse, mais tu sais, en Égypte ancienne, la façon dont les Égyptiens voyaient l'éternité, et c'est pourquoi ils inscrivaient comme ça leur nom partout sur la pierre et tout, c'est que tant que ton nom existe, tant que ton nom est prononcé, t'es éternel. Et c'est quelque chose qui, bon, m'avait marqué, mais je trouve que c'est ça aussi que cette fête, on continue de prononcer le nom de Callot, qui est un type que moi, je ne connaissais pas, et maintenant, grâce à lui que je connais, tu sais, c'est ça l'éternité.
Qui te force, en fait, puis je reviens, parce que c'est un élément important que je trouve, vous mettez le doigt sur l'idée que justement, on n'est pas dans la représentation, on n'est pas dans le pastiche, on n'est pas dans la reproduction, malgré qu'à la fin, on a quand même mis en index quelques éléments pour se faire une idée. Parce qu'à un moment donné, Callot, ce n'est pas nécessairement facile à retrouver non plus. Mais c'est un peu comme si lui, à travers sa réflexion, donnait une part d'éternité ou tentait de redonner une part d'éternité à Callot, qui l'a perdu aussi d'une certaine façon, comme peut-être éventuellement un auteur en donnera un peu à Seth qui l'aura retrouvé si éventuellement Seth tombait dans cet oubli-là. Aussi, donc, la notion un peu de filiation, de quelle manière tu reçois tes influences, de quelle manière tu transmets tes influences, puis est-ce que c'est un peu comme ça aussi que tu peux te placer dans une certaine, entre guillemets, pérennité créative, je ne sais pas. Je trouve que c'est le genre d'album qui amène tellement des belles réflexions qu'on peut s'approprier, puis qui sont profondément humaines, parce que du moment où tu commences à te mettre de l'avant, du moment où tu commences à t'investir dans quelque chose qui va au-delà de ton quotidien, bien, il y a la notion aussi de qu'est-ce que tu laisses en arrière. Oui, il y a la descendance, mais au-delà de ça, il y a aussi la création, il y a ce que tu fais, il y a ce que tu proposes, il y a ce que tu mets de l'avant. Puis nécessairement, bien, on peut l'imaginer, du moment où tu as choisi de créer quelque chose, bien, tu as envie que ça reste un peu. C'est peut-être aussi ce qui amène certains vers l'écrit, vers d'autres médias. Bref, encore là, je ne veux pas m'approprier les réflexions de personne, mais j'ai l'impression que de lire ce livre-là et de voir aussi la relation que vous entretenez avec ce qu'il dit, il y a quelque chose de très personnel, de très intime qu'on va chercher avec cette démarche qui est somme toute assez intime aussi et très quotidienne de cette.
Mais c'est drôle, moi j'ai l'impression que je suis le seul du groupe qui n'a pas vu le thème de l'éternité là-dedans. J'ai plutôt vu vraiment, puis c'est peut-être pour ça que ça sert aussi à quelque part, qu'on ne voit pas le visuel, hein, sauf évidemment en annexe. Il n'est pas inscrit dans le récit, mais plutôt une bande dessinée sur la passion d'être un artiste. Et donc, parce que c'est ce qu'on sent qu'on a le besoin de faire, qu'on a le goût de faire. Et c'est le cas de Callot aussi, quand il en parle, selon moi, avec sa mère, là, la mère de Callot, où elle dit ben, il a quitté, c'est parce qu'il n'aimait plus comment ça fonctionnait, c'est pas parce qu'il ne voulait plus en faire ou quoi que ce soit, il a quitté parce qu'il n'aimait plus ce qu'on lui demandait, ça ne correspondait plus, puis... Donc, ce n'est pas le désir d'avoir voulu être éternel. Ben, ça, c'est ma lecture à moi.
C'est un corollaire. L'éternité est un corollaire, dans le fond. Tu t'investis, tu fais quelque chose, tu es passionné. Puis à un moment donné, c'est comme, je veux dire, tu ne peux pas ne pas te demander qu'est-ce qui va rester après de tout ce que tu as mis de l'avant. Je veux dire, c'est pour moi, l'un et l'autre vont ensemble un peu.
La vie d'un artiste, en fait, effectivement, bon, peut-être, mais la vie de l'artiste, là-dedans... C'est pas seulement la BD qui parle de BD, c'est un BDiste qui parle de sa passion qui est non seulement courir après des illustrations d'une certaine époque. Mais à un moment donné, si on l'observe bien, la manière dont c'est un marginal, il s'habille de façon plus rétro, mais il côtoie Chester Brown, qui lui a l'air d'un punk sorti d'un concert
heavy metal, dis-le.
Oui, tout à fait. Ce qui fait que cette relation-là d'amitié, cette passion-là avec lui, bon, ça peut marcher, mais en même temps, il l'appelle quand il n'y a plus de fric, puis peux-tu me passer du fric, là? Je vais voir. Et il rencontre une fille, à un moment donné, la relation amoureuse, mais à un moment donné, la relation amoureuse, ça fait des semaines qu'il ne l'a pas appelée parce qu'il est parti chercher des trucs ou rencontrer des gens. Il y a ça aussi, ces artistes. L'artiste, le marginal, qui pour sa passion, son travail, peu importe, là, bon, l'arsenal, c'est ça aussi. Là. Il y a une famille, mais
il y a aussi des compétences. Les acteurs qui veulent jouer d'ailleurs avec cette BD-là, je faisais la réflexion à Raymond dans le courant de ma lecture à un moment donné, ils peuvent s'amuser à mettre ça en dialogue avec l'autre BD que Raymond nous avait fait lire l'autre fois de Chester Brown là, sur 23 prostituées. Là,
oui, c'est ça.
Pareil, ils se mettent en scène les uns les autres. Là.
Tout à fait. Et c'est drôle parce que Seth avait, ça a toujours été dans la communauté de la bande dessinée. Comme je disais, il n'a pas fait de bande dessinée finie, structurée beaucoup. C'était des carnets, mais il a beaucoup travaillé dans le milieu. C'est lui qui travaille à la réédition de Jack King, qui fait Wild and Squeezy, les fameux strips. C'est lui qui fait toute la conception de la réédition de chacun des tomes qui sort avec Brian Connolly. Il y a une relation pour tout ce qui est graphisme et tout. Là. C'est quelqu'un de très impliqué dans le milieu de la bande dessinée anglophone canadienne. Il a fait des recherches sur les cartoonistes du Grand Nord à un moment donné. Il en rencontre même une espèce de société secrète qui agit. Là. C'est vraiment... Mais tu sais, c'est ça le truc. C'est de voir aussi la vie de ces artistes-là. Tu sais, même tu sais, Larsenet et bon, Will Eisner aussi, mais tous ces artistes. Même dans le cas de Scott McLeod aussi, on peut le voir un peu dans ce que Édouard a proposé.
Mais en fait, ce que je remarque aussi, et aussi bien dans ce que Jérôme avance que dans ce que Marco avance, hein, dans ce qui s'évoque de plus en plus, c'est justement la passion. Cette passion hein, qui nous porte, cette passion qui fait qu'on veut justement laisser une trace, cette passion qui fait qu'on est prêt à aller jusqu'au bout pour exaucer nos rêves. Et bien sûr, hein, c'est ce que fait notre grand maître, notre grand incontournable, Will Eisner, dans Itinéraire d'un rêveur. Oui, Itinéraire d'un rêveur. Quel titre on ne peut plus approprier, écoute, pour ce parcours extraordinaire d'un gars qui veut faire de la BD, qui est prêt à tout pour aller faire de la BD, mais qui est aussi dans la grande époque, parce que là, c'est le comic strip, c'est des studios, mais oui, pratiquement, où là, on est plusieurs, on se passe la job, on échange, on travaille à la chaîne. Je veux dire, le pur plongeon dans cet univers-là, bon, d'emblée, évidemment, c'est Eisner, je veux dire, comme je l'évoquais cette semaine avec Marco, je veux dire, tu dis ça, puis t'es comme... Bon, OK, oui, OK, c'est un pote de Bob Kane. OK, ouais, le petit Italien qui travaille avec. Non, mais tu sais, c'est Jack Kirby. T'sais. Juste les noms qui sont plugués là-dedans, c'est complètement hors barème. Là. On est... Écoute...
C'est une immersion d'une époque, dans le fond. On nous amène à un moment de la bande dessinée. On nous immerge un peu dans une réalité comme ça. Et au-delà... la réflexion sur le médium. En fait, on est en réflexion sur la structure du médium, sur l'édition, sur l'organisation des
studios. Oui. Puis tu sais, quand je termine juste avec ce petit point-là, quand Eisner, au début, explique, là, tu sais, son pote dit « Ah ouais, ben là, les bureaux nous demandent, tu sais, comment on a de collaborateurs. » Puis ben, dis-lui qu'on a un tel, puis un tel. Là, comme, c'est qui ces gars-là? Ben, ça va juste être moi, je vais changer de style. OK, je vais changer de style! 4 fois, comme ça, sans slide, pas de problème. Vous vous rendez-vous compte du génie et comme épouvantable de ce gars-là? Je veux dire, juste ça. Et il amène ça comme si c'était l'affaire la plus naturelle du monde. Dans l'itinéraire de rêve, il a fallu que j'en dessine. moi, j'étais là, j'étais sur le dos. J'étais sur le dos.
En fait, ce qui est fascinant dans l'itinéraire d'un rêveur, au-delà du fait qu'effectivement, c'est le regard d'un auteur sur sa jeunesse et qu'est-ce qui le fait en sorte qu'il est entré dans ce métier-là. Une espèce de... Dans l'itinéraire, dans l'histoire qui est racontée, l'itinéraire d'un rêveur, c'est un... Wilson a l'air d'un grand dadais, un peu naïf, qui a toujours ce rêve-là. Et Dieu sait que le mot « Ah, c'est mon rêve » va être répété à plusieurs reprises. Il va le répéter tout le temps. C'est comme s'il ne lâchera pas le truc. Malgré les déceptions, malgré les échecs, malgré tout ça, le travail accompli à multiplier les planches parce qu'il était payé à la... On comprend comment il était payé au début... T'sais, à la planche, puis au strip, puis c'était payé, puis c'était très peu payé, donc il fallait qu'il en fasse plusieurs. Et c'était l'industrie du comic strip, mais c'est devenu l'industrie du comic américain, et ça a été longtemps comme ça, là. C'est pour ça, t'sais, même à l'époque de Marvel, le travail, c'était, tu peux prendre combien de séries, tu sais. Fait que quand arrivait Stan Lee, il faisait juste mettre les dialogues dans les bulles de toutes les séries qu'il y avait, là.
Et puis essayer d'avoir une production qui semble aussi assez variée, beaucoup de personnages, ça. Beaucoup de nouveautés. OK, ton personnage ne manque pas, invente un autre, crée des situations. Ah, tel personnage, c'est un compétiteur, marche, on va essayer de s'en inspirer pour créer quelque chose, etc.
Il y a ce regard candide-là que j'ai beaucoup aimé, moi, sur la façon qu'il a...
Quand on lit Will Eisner, pas juste cette BD-là, parce qu'elle s'inscrit beaucoup dans l'ensemble de son œuvre. C'est intéressant de voir à quel point cet homme-là est quand même pragmatique, par exemple. Là, au cœur de son travail d'artiste, il veut en vivre. Puis lui, à travers sa carrière, c'est de voir à quel point il s'est toujours adapté. Itinéraire d'un rêveur, encore là, que tu nous as fait lire, montre certains aspects. Mais en même temps, il est un artiste qui a fait avancer le genre, malgré tout. T'sais, malgré le fait que, de manière très pragmatique, il devait essayer de vivre, il propose tout le temps des nouvelles affaires. Il a été le premier à proposer de la bande dessinée pour faire des modes d'emploi, des choses aussi, comme ça. Ouais. Il raconte ça à un moment donné parce qu'il fallait qu'il se trouve des marchés constamment, mais en tant qu'artiste, il a constamment avancé pareil. C'est une personnalité absolument fascinante, Will Eisner. Là.
Oui. Puis en fait, tu peux faire avancer ta discipline d'un côté par la pratique elle-même, puis dans le point de vue créatif de la chose, mais même dans le point de vue structurel aussi, d'une certaine façon, de contribuer au développement de structures d'édition, de contribuer à bonifier, de se bonifier, mais d'amener d'autres aussi vers des structures, d'explorer, de s'approprier cette mécanique-là. Je veux dire, ça nous rappelle justement que je veux dire, dans les cours d'art, ils devraient mettre aussi des cours de travail autonome, ils devraient mettre des cours d'affaires, de business, parce que oui. Veux, veux pas, quand tu te lances en création, la plupart du temps, tu fais pas seulement te donner un médium, mais tu donnes un métier, entre guillemets, une pratique qui va te dépasser le simple fait de produire de l'art, mais que nécessairement, il y a une richesse à comprendre la structure d'édition, à comprendre le marché du livre, à comprendre comment tu te places un peu là-dedans, puis éventuellement pouvoir démarrer aussi ton affaire ou tenter d'expérimenter aussi en justement démarrant des structures, en voyant d'autres pans. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi. Justement, puis quand on parlait de variété tantôt, ben, tu sais, de ne pas se limiter non plus uniquement à une réflexion sur la création physique, sur la manière de créer du récit, pas de se limiter non plus à ce qu'on va laisser dans le temps, mais de penser aussi à ce qui entoure le mode créatif, donc vers la diffusion de cette création-là, de faire vivre cette création-là, parce que, je veux dire, un objet que tu fais en toi, pour toi-même, en toi-même, qui reste dans un tiroir, oui, c'est de l'art, mais à un moment donné, l'art prend vie quand il est vu, quand il influence, quand il est lu, quand il est... Quand c'est utilisé, dans le fond.
L'impact sur les autres, peu importe que ce soit lequel, que ce soit positif ou négatif, mais si ça ne laisse pas les gens indifférents... c'est là que tu vas te distinguer, c'est là que tu vas laisser justement une marque. Et c'est pourquoi, justement, je pense que, comme je disais, un ouvrage comme celui de McLeod qui va présenter par le menu comment créer une BD, mais pas vous dire voilà, faites telle BD ou voilà, faites tel style de dessin. Non, non, et ça, il explique clairement dans son ouvrage de dire justement. Adaptez-vous, prenez le style que vous voulez, prenez l'approche que vous voulez, mais qu'il y a des éléments intrinsèques qui vont faire que votre BD va être clair, va être facile à comprendre, va être et c'est pas des absolus. Je prends quelque chose comme Blake et Mortimer, je veux dire, on le sait que c'est verbeux. Tu vas lire un Blake et Mortimer, ou tu vas lire bon, je sais pas, un Corto, quelque chose comme ça, tu sais que tu vas rentrer dans des considérations, mais je veux dire, c'est correct, ça peut être plus clair que ça, c'est ça le but. Mais reste que moi, tout ce que McLeod amène au-delà de ça, pour moi, bien sûr, qui n'est pas BDiste et qui dessine comme un cochon, ça n'a pas cet impact-là de dire « je vais faire une BD, voici des conseils ». Pour moi, c'est des œuvres que mon mentor, que Marco, hein, m'a pointé, m'a fait découvrir des choses comme ça, des choses comme lire de la BD de Benoît Peters, et qui ont fait que je suis, très humblement, passé d'un gars qui aimait bien lire de la BD parce qu'il trouvait qu'il y avait des dessins qui étaient le fun, à un libraire qui est capable de prendre une BD, de l'ouvrir, ou du style libraire, mais bon, n'importe quel personne justement qui veut vraiment aller plus loin dans la BD, donc t'es capable de la prendre, de la lire et de dire, ben oui, voilà le génie, voilà pourquoi c'est au-delà du dessin, tout simplement, voilà pourquoi c'est génial, voilà qu'est-ce qu'il y a dans le scénario, dans les expressions, dans l'absence des expressions, dans la symétrie, dans tout ce que ce qu'on appelle l'espace entre les cases, là, où toute la magie se produit, là. C'est ça que ça nous apprend, ces ouvrages-là, et c'est pourquoi pour moi, c'est aussi important parce que ça fait de moi un meilleur lecteur de BD.
Mm-hmm. Oui, puis je te rejoins à 100% là-dessus. Je pense que je voulais rempiler d'entrée de jeu avant qu'on amène vers autre chose. C'est pour moi, c'est le genre de livre où, à un moment donné, si tu as une appréciation du médium puis tu veux le passer à une autre étape, bonifier ta compréhension de ce médium-là, bien, ça devient une porte d'entrée extrêmement intéressante. Et le fait qu'il l'amène par le biais justement de ce médium-là aussi, à travers une mise en scène, d'un côté, ça lui permet d'exemplifier ce qu'il est en train de parler quand il parle de certains styles, de certaines approches, et de l'autre, ça permet de venir nous chercher par ce médium-là qui nous a amené à nous intéresser au médium comme tel et qu'on n'est pas nécessairement prêt justement à tomber sur un ouvrage savant, qu'on a envie quand même de rester dans une BD, qu'on a envie de rester dans ce médium-là. Mais en même temps, ça n'empêche pas, parce que l'on parle de faire de la bande dessinée, il y en a trois aux ouvrages de cette série-là d'Eisner, de McLeod, et ça l'amène aussi quand même à réfléchir le médium, parce que tu l'as mentionné, McLeod ne parle pas en absolu, il ne dit pas « c'est comme ça, c'est la méthode », il amène sa perception des choses, c'est clair que c'est des perceptions qu'il partage, et c'est clair aussi qu'il amène même une réflexion sur le médium lui-même, et donc qu'on soit lecteur ou qu'on soit auteur en devenir ou auteur tout court, mais j'imagine que ce type de réflexion-là, on la reçoit très différemment, mais que peu importe la situation, ça reste une réflexion qui est riche et qui a un potentiel d'être une réflexion fondatrice aussi, à mon avis.
Elle est impliquée. Il s'est impliqué dans cette réflexion-là, dans le sens qu'on pourrait croire que le choix de faire de la BD de McLeod ne rentrait pas comme contre les autres choix, c'est-à-dire des auteurs qui parlent de la BD. Mais non, dans la préface ou dans l'entrée de jeu, McLeod parle de ses BD à lui qui il mentionne que peut-être qu'ils ont des défauts, peut-être qu'ils ne sont pas aussi. Alors, lui-même a réfléchi sur son art à lui.
Il dit même que ce qu'il propose là lui sert de réflexion sur un projet à venir. Je pense
voilà, il parle de le sculpteur. Probablement qu'il parle du sculpteur.
C'est ce que j'ai pensé moi aussi. Je trouvais ça super intéressant, cette médium-là.
Ce qu'il avait fait avant s'appelait Zot. C'était une espèce de...
Il en parle d'ailleurs.
De comics sur un ado qui a des super pouvoirs. Bref, il faut voir aussi comment il en parle. Toute la première partie sur la mise en page et le sens de la lecture, c'est un des trucs majeurs que moi. Benoît Peters en fait mention aussi, mais là, c'est vraiment la première partie, là, avec toutes les 5 ou 6 étapes, c'est vraiment un des trucs majeurs que j'ai vu, moi, comme document bande dessinée sur la bande dessinée, mais la lecture de la bande dessinée.
Parce que ces planches sur le manga sont absolument fascinantes.
Oh, oui, tout à fait. Ah oui.
Vraiment, là, quiconque pense que du manga, là, ça a l'air d'être des dessins garochés.
Non, non.
Ouais, ben c'est ça, je me suis dit que ça allait vous faire du bien hein, de pouvoir un peu.
Mais
juste la variété, c'est ça, des
procédés. Il se met à regarder chacun des éléments que lui voit dans le manga il prend des exemples carrément tirés des mangas, il les inclut dans sa bande dessinée. Et, mon Dieu, mais la démonstration est absolument magistrale, là, rendue là. Puis là, c'est là que tu vois que la bande dessinée en elle-même sert également à faire de la démonstration d'un cours. Tu sais, c'est vraiment, c'est un ouvrage qui est passionnant à lire, comme tout, sommes les deux autres tomes d'ailleurs. Là.
Oui, puis en fait, puis toute la réflexion, je veux dire, il fait une mise en scène pour expliquer la mise en scène, pour. C'est, je veux dire, il y a quand même aussi une réflexion visuelle là-dedans, parce que tu le dis, c'est oui, on n'est pas dans un récit narratif avec un fil rouge et le reste, mais il y a quand même ça reste une mise en BD de la théorie de la bande dessinée avec l'auteur-narrateur, avec des éléments. Donc, il y a une recherche visuelle aussi qui est quand même intéressante là-dedans.
Dans je trouve que ça appuie tellement bien, c'est ça, les exemples, je veux dire, parce que là, t'es ça concrètement, là, je veux dire, la séquence qui marche pas, t'avoues, il l'a fait sciemment qu'il marche pas, puis tu le vois tout de suite que ça fonctionne pas, tu sais, ou comment il parle, tu sais, des expressions du visage, me dire, oh, je prends une expression joyeuse, mais là, d'un coup, je rentre des mots menaçants, puis l'expression joyeuse devient complètement autre chose, tu sais.
Ah oui, c'est bon, ça.
Ah oui. C'est la façon qu'il a de raconter. C'est lui-même, il fait des cases où il met des BD dans ses cases. Ouais. Il y a une espèce de truc hallucinant. Là. J'ai remarqué ça à la relecture. Là. Alors là, tu suis ton sens de lecture avec ses cases à lui, mais dans ses cases à lui, il y a des bandes dessinées à lire. Et c'est magistral comme idée.
Oui, parce que comme je disais, c'est ça qui concrétise le truc d'une manière vraiment cristalline. Je veux dire, quand tu fais les illustrations des expressions, puis comment on peut mêler une expression, je veux dire, c'est complètement incroyable. Là, oui, puis tous ces petits détails, justement, quand tu parles de la gestuelle, quand tu parles de t'sais, c'est parce que, et c'est souvent ce que c'est un point que je ramène souvent, mais et encore une fois, je pense que ça souligne encore l'importance d'ouvrages comme ça pour les lecteurs. C'est que quand une BD est bonne et qu'elle fonctionne bien, on le voit pas. On porte pas attention à ces trucs-là, mais il faut.
Instinctivement, on le sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne, c'est tout. Là.
Et puis des fois, c'est le fun d'essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne, justement.
Voilà.
Alors, pour faire de nous des meilleurs lecteurs, pourquoi pas, et nous faire apprécier encore plus les productions des autres. Donc, ça reste un incontournable. Je mentionne les quatre titres dont on a parlé. Puis vous aurez compris, en fait, ces quatre fortes recommandations, d'ailleurs. Donc, L'itinéraire d'un rêveur de Will Eisner chez Delcourt. It's a good life if you don't weaken the set chez Drawn and Quarterly. Faire de la bande dessinée de Scott McCloud, également chez Delcourt. Et Thérapie de groupe, le premier tome de Manu Larsonnet chez Dargo. Alors, c'était une édition du Club de lecture avec Marco Duchesne, Jérôme Vermette, Édouard Tremblay. Merci beaucoup à vous trois.
Merci, mon cher.
Merci.
Salut,
bonjour. Et on se dit au mois prochain, évidemment, pour ce qui est du club, avec un thème qui sera choisi par Jérôme à suivre, évidemment.
Ah, tant pis pour nous.
Oui. Je vous invite à suivre La Vie en BD sur Facebook, sur Instagram et à aller faire un tour au lavieenbd.com. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.